C'est ta faute, dit le petit prince. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Antoine de Saint-Exupéry, le petit prince. Le vieux monde se meurt. Le nouveau est lent à apparaître. Et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. Antonio Gramsci. Prologue. L'Évangile selon Rudy Alfarensi. Les amphétamines prisées par les combattants de l'État islamique ont un nom. Le captagon. Ses effets dopants sont particulièrement efficaces. Quand tu en prends, tu oublies les gens, tu hallucines. Tu as tellement d'idées, tes pensées s'améliorent. C'est comme si les gens n'existaient pas. Khaled, 19 ans. Justin Thomas, The National. Décembre 2014. Province de Ninive, Irak. C'est un long ruban calciné et luisant du sang fraîchement versé de quelques mécréants. Une route comme il en existe partout, où l'État islamique a planté son drapeau. De part et d'autre, des maisons en ruine et des cadavres en lambeaux, écorchés, brûlés ou juste décapités. Les mouches s'affairent en bourdonnant sur les chairs encore consommables et pondent leurs œufs dans les coups, les yeux. Quelques asticots s'agitent déjà sous les peaux et donnent l'illusion que les corps sont toujours en vie quand les têtes reposent pourtant à quelques mètres de là. L'air est irrespirable. Pas seulement à cause de l'odeur de mort qui règne ici ou de celle d'essence et de gaz d'échappement qu'exhale le pick-up, mais parce qu'il est chargé de poussière. Une poussière que n'en finit pas de recracher l'Irak. Tous les jours, il y a un nouveau site à faire tomber. À chaque fois, le même nuage épais envahit le ciel et se répand dans la ville, ajoutant à l'inconfort du jeune homme. Rudy resserre son foulard contre son nez. Il crève de chaud. Assis à l'arrière de la voiture, avec sa tenue aussi noire que l'étendard qui flotte désormais sur la ville. Mais il s'en fiche. Ce n'est pas ça qui va le détourner de sa mission. Il est là pour purifier un quartier chrétien. Et une main posée sur la DSHK, il attend que la Toyota s'immobilise à bonne distance de la cible pour faire un carton. Un mois qu'il espère pouvoir passer à l'action. Un mois qu'il a tout plaqué en France pour rejoindre ses frères combattants et faire la guerre, pour de vrai. Un mois qu'il s'entraîne au maniement des armes. Jusqu'à présent, tout ce qu'il connaissait du combat, il le tirait de ses jeux vidéo. Mais cette fois, tout est bien réel et il ne s'est jamais senti aussi vivant, aussi puissant. Main sur son arme, torse bombé. Aussi heureux. Pourtant, la vie est rude ici. Il faut respecter les règles et il n'y a pas de femme. On lui a promis qu'il en aurait une après cette première virée. Si le frère qui conduit juge qu'il a été brave, il le sera. Rudy en a trop envie pour rater sa cible. Il croit bien qu'il n'a jamais été aussi excité. De toute façon, avec des balles de 12,7 mm, il y a peu de chances qu'un commerçant en réchappe. Il va canarder à tout va les murs, les fenêtres, les gens. Enfin, le véhicule s'immobilise. Rudy n'est pas très doué pour estimer les distances, mais il jurerait être à plus de 200 mètres de sa cible. En attendant que le frère lui donne le signal, il essaie de rester calme, mais il ne tient pas en place. Il veut voir les façades tomber sous ses balles, les gens crever, et peu importe leur âge, peu importe qui ils sont. Ça n'avait pas d'importance dans les jeux. Ça en a encore moins maintenant. Ce ne sont pas des humains, ce sont des mécréants, des impurs. Ils ne valent rien. Pour patienter, Rudy sort son iPhone de sa poche. Logiquement, il n'a pas le droit d'en posséder, sauf si c'est pour faire la promotion de Daesh. Alors il place l'appareil devant son visage, cadre du mieux qu'il peut pour qu'on voit bien sa douchka sur la photo, sourit et fait un selfie. Il regarde le résultat euphorique, sûr de lui. Il y voit un guerrier puissant, un lion, le bras armé d'Allah. Ça le fait rire. Il pense au nombre de likes qu'il pourrait avoir sur Facebook, rien qu'avec ce cliché. Aux diadettes qu'il va impressionner. Quelques coups tapés à la vitre arrière du pick-up le ramènent à la réalité. Le frère lui fait un signe de la tête. Il est temps. Alors Rudy range son téléphone, se lève prestamment, grimpe sur le rebord métallique du véhicule. Il saisit les poignées de l'arme et trouve son équilibre, corps penché en arrière. Il est prêt. Ses doigts agrippent les détentes. Enfin, il commence à tirer. Partie 1. Contre ton épaule. Moi, contre ton épaule, je repars à la lutte, contre les gravités qui nous mènent à la chute. Damien Saez, Jeunesse, lève-toi. Chapitre 1. Paris, France. Le spectacle est terminé. Fini les éclats de voix et les gestes brusques. Les clients du café ont détourné le regard et se désintéressent des deux femmes qui se disputaient. La tension semble être retombée, mais si Nadia et Aiko se sont tues, c'est pour mieux se sauter à la gorge, pour l'élan. Drapées dans un silence qui signe la défaite de la raison au profit de leur pulsion, elles se jaugent, telles deux lionnes, se reniflent, tentent l'intimidation avant le passage à l'acte. D'aucuns diraient que c'est le calme avant la tempête et qu'à l'instar des oiseaux, elles ont stoppé net leur piaillement dans une vaine tentative de s'amadouer mutuellement et d'éviter l'orage. Mais cela se tromperait, car elles sont l'orage. L'une s'agite et s'empourpre, l'autre reste aussi froide qu'un matin d'hiver. Telles deux masses instables en présence, corps tendus à l'extrême comme si l'électricité ambiante les traversait de part en part, elles ont atteint le point de rupture. Les yeux humides de Nadia ne rencontrent que des prunelles sèches qui la foudroient. C'est elle qui, la première, décide de rompre le statu quo. « J'arrête tout, je te dis. »«
Non, je peux pas te laisser faire. »
C'est à peine si Aiko a haussé le ton. Pourtant, Nadia a encaissé ces mots comme autant de gifles en plein visage. Quelque chose dans sa voix, peut-être. Un accent métallique, désincarné. Et cette autorité glaçante qui transperce quiconque la contredit. C'est fou ce que Aiko peut ressembler à sa mère quand elle est en colère. Il ne s'agit pas de toi, Aiko, mais de moi. Je n'ai pas signé pour ça. D'ailleurs, j'ai rien signé du tout. Je te le répète, c'est terminé.
Tu t'es engagé moralement. Ta parole n'a donc aucune valeur?
Certainement plus que la tienne,
dit-elle alors qu'elle parle de tout abandonner. Ironise Aiko.
Ce n'est pas une question d'abandon. Je suis allée au bout de ce que je pouvais faire. Maintenant, j'ai besoin de me reposer, de penser un peu à moi ainsi qu'à ma famille. Nadia secoue la tête pour appuyer ses propos et passe une main nerveuse dans ses boucles brunes. Une multitude de bracelets dorés descendent le long de son bras en une cascade étincelante. Aiko suit machinalement leur course et se laisse distraire un instant. Elles étaient ensemble quand Nadia les a achetées sur un marché aux puces, dans le 13e. C'était au temps où elles étaient encore légères, où elles étaient inséparables. Le souvenir lui arrache un sourire un peu nostalgique. Comment en sont-elles arrivées là?
Le rythme de ces derniers jours t'a épuisé, tente-t-elle d'argumenter. Tu confonds fatigue physique et lassitude?
Je ne suis pas juste là, Saiko, j'ai peur, s'écrie Nadia d'une voix qui déraille. Pourquoi tu ne peux pas comprendre ça? J'ai une putain de trouille qui m'empêche de respirer, j'ai peur tout le temps. Pour ma vie, pour ma famille, et j'en peux plus. Alors, avec ou sans ta bénédiction, j'arrête.
T'as pas le droit de me faire ça.
Non mais tu crois quoi? Que je suis à ton service? Eh ben j'ai un scoop pour toi. Il va falloir te trouver un autre épouvantail à agiter sous les yeux des médias.
Un épouvantail? Mais qu'est-ce que tu racontes?
Ça va. À d'autres, Aiko. Toi et moi, on sait très bien que je te sers de caution morale. Je suis la collaboratrice rebeu que tu exhibes pour te prémunir de toute accusation de racisme. Aiko encaisse le choc. Comment Nadia peut-elle oser dire ça? Ça lui donne envie de hurler. Mais son amie est déjà elle-même au bord de l'hystérie. Il vaut donc mieux éviter la surenchère si l'on veut maintenir un semblant de communication.
C'est ridicule. Et tu sais bien que...
Ridicule? Ouais, c'est ça. Je suis ridicule et toi t'es tellement sage, tellement forte. Tellement dans la maîtrise qu'on dirait un moine zen. À croire que tu te fiches de tout, à part de toi.
Tu te trompes, Nadia.
Je me suis trompée, c'est vrai.